En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Si je commets un péché, je ne peux pas me dire « je suis pécheur, c'est normal que je pêche ». Je devrais me dire « non, ça ne correspond pas à qui je suis ».
Voilà,
c'est pas ça qui reflète ma nature.
C'est ça. En fait, le péché est contre nature.
Pour quelqu'un qui est né de nouveau.
On est à fond dans une société où on pratique l'estime de soi, l'épanouissement personnel. Mais la Bible, elle est plutôt sur l'estime de l'autre, l'épanouissement
oui.
de l'autre.
J'entendais un prédicateur qui faisait répéter à l'assemblée « je suis quelqu'un ».
C'est de l'endoctrinement.
Il y a cette doctrine qui voudrait qu'on proclame que des choses positives.
Ah oui.
Sur nous et sur nos vies. Ça vient pas de la Bible, ça vient pas de l'Église. À la base, ça vient du monde, c'est la pensée positive.
Oui, t'as raison, c'est pas biblique et c'est de la superstition.
Là, t'es en train de dire une dinguerie. Hein. Parce que là, c'est clairement toute une partie du christianisme moderne qui prêche ce genre de choses.
Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui dis une dinguerie.
Parfois, on met plus en avant les hommes de Dieu que Dieu lui-même.
Je pense pas que ce soit un problème moderne pour l'Église.
Ah oui?
En fait, ça a toujours existé. Tu vois, quand tu lis 1 Corinthiens, il y en a qui se réclament de Paul, d'autres d'Apollos. C'était des petites stars locales, quoi, au sein de l'Église qui divisaient d'ailleurs. Mmh. Mais là où je te rejoins complètement, avec les réseaux sociaux, ça prend une autre dimension.
On garde une mentalité de l'ancienne alliance, cette mentalité de il y a certaines personnes qui sont comme des lévites, qui sont des représentants du peuple devant Dieu.
Mais en fait, qui ne sont rien.
Un seul sacrifice, un seul sauveur, un seul retour. C'est pour la gloire du Fils, on s'offre le même en retour. Frérot, tu sais qu'on est dévoué. Jusqu'à la mort, on est dévoué.
Yo l'équipe, c'est ton gars Joe, et il y a toujours 5 sola pour le salut d'une seule âme. Par un seul Dieu, un seul homme, Christ, le Shiloh. Shalom à tous, salam à toi. Et aujourd'hui, j'ai la joie, l'honneur, le privilège d'accueillir mon frérot. Axel, c'est mon ami d'enfance.
Ouais, salut.
Comment
Joe.
Ça va?
Ça va, merci et toi?
Eh ben ça va, peinard, on est là, tranquillement, ça fait trop plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, on va parler du 5e sola, ça y est, c'est la fin de cette série.
Et pas des moindres.
Et oui, pas des moindres. T'es le premier à qui j'avais parlé de ce projet, et je t'ai demandé de choisir, t'as pas hésité. Ouais. Soli Deo Gloria, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc littéralement c'est « à Dieu seul soit la gloire ». On pourrait aussi traduire ça par « pour la gloire de Dieu seul ». Là c'est une traduction qui est un peu plus touchy, un peu plus erronée, mais en tout cas littéralement c'est « à Dieu seul soit la gloire ».
Alors d'où ça vient cette formule? Qu'est-ce que ça veut dire plus profondément? Dis-nous un peu.
Alors on la trouve pas telle quelle dans les Écritures, à part, parce que c'est du latin, ça n'aura échappé à personne, dans la traduction de la Vulgate. La Vulgate, en gros, c'est la première traduction en langue vernaculaire, en langue populaire. Et donc, dans 1 Timothée 1,17, justement, c'est une expression qui est employée par Paul, notamment, donc pour dire okay. que toute chose, finalement, soit à la gloire de Dieu seul. À la Réforme, les gens, ils se sont emparés de cette formulation. De base, c'est vraiment une expression qui est sotériologique, c'est-à-dire qu'elle a rapport au salut, au fait d'être sauvé, mais ensuite on peut la décliner à volonté d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, d'un point de vue du ministère, enfin voilà, de tout ça.
Ouais, c'est ça, ça concerne le salut, donc le passage de la mort à la vie pour l'enfant de Dieu, c'est-à-dire
ouais, c'est
qu'on est, à la base, on est tous pécheurs, on mérite l'enfer, on est séparés de Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu a trouvé un moyen pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Ce moyen, c'est l'œuvre de Jésus, la croix. Et donc, ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas par notre mérite, et c'est à lui que revient la gloire. Mais comme tu l'as dit, c'est un principe beaucoup plus général qui nous concerne ouais. aussi dans la vie de tous les jours, la vie
ouais.
chrétienne.
Ouais.
Et on va essayer de justement discuter de ces différents aspects.
Mais tu ne m'as pas demandé en quoi j'étais dévoué.
Ah ouais, c'est vrai.
J'aimerais bien le dire, moi.
Alors, question de présentation, mince. À quoi et en quoi es-tu dévoué?
Alors, premièrement, je suis dévoué à ma famille. Je suis marié, je suis père d'un enfant, bientôt deux.
Ah oui.
Le deuxième arrive bientôt. Donc en ce moment, c'est vraiment ça, mon sujet de dévouement, on va dire, c'est la famille. Pour ma femme qui est enceinte de 9 mois, mais enfin, elle en fait aussi beaucoup de son côté.
Donc là, à tout moment,
ah bah, à tout moment, je pars. Deuxième chose à laquelle je suis dévoué, c'est l'Église. Bah, tu le sais, mais je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, je suis pasteur d'une église. Et en fait, ça m'occupe beaucoup de temps, mais c'est trop chouette, c'est trop bien. Et donc, je donne le plus possible. En fait, j'essaye de laisser Dieu m'utiliser quoi, pour l'église. Troisième chose à laquelle je suis dévoué, c'est mes élèves, parce que je suis aussi prof. Mmh. Donc, de faire en sorte qu'ils réussissent, en fait. Indépendamment même juste de la littérature, du français, du bac, etc. Mais voilà, qu'ils réussissent scolairement, qu'ils se sentent bien. Et puis, tout ça, j'essaye de le faire justement à la gloire de Dieu.
Wow. Merci pour cette présentation. C'est que ça me touche parce que je me dis, nous, on s'est connus avant même de connaître Christ, d'une certaine manière, et de voir le chemin parcouru.
Nous, on s'est connus à l'école, ouais.
En maternelle.
En couche.
Et aujourd'hui, moi aussi, je me reconnais dans ce que tu dis, c'est ce dévouement pour la famille, pour le ministère et tout. Donc, waouh, gloire à Dieu, justement.
Bah ouais, gloire à Dieu, ouais.
Et donc, je reviens à Solideo Gloria. Pourquoi ce principe est primordial ? En quoi ça répond à certaines questions sur le sens de la vie, le sens de l'existence ?
En fait, on a une vision erronée de nous-mêmes. Mmh. On pense à tort être quelqu'un d'important de base, de fait. En fait, si on est important, c'est parce que Dieu nous rend important. Mmh. Ça, c'est aussi nous rappeler une humilité nécessaire dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne. Et en fait, c'est se rappeler ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on vit. Pourquoi on l'est, pourquoi on le fait, pourquoi on le vit, c'est pour le Seigneur, c'est pour sa gloire seule. Et finalement, se rappeler ça, ça nous fait échapper à l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est de chercher à retirer la gloire de Dieu, je pense.
Moi, c'est un principe, je trouve, qui a façonné ma vie, dans le sens où moi, je me suis posé pas mal de questions sur le sens de la vie et pourquoi je suis là, pourquoi j'existe. Et en fait, de croire en un Dieu créateur, ça donne du sens à tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un projet, il y a une personne qui a voulu que je sois là, et cette personne, c'est le créateur de l'univers. Je me suis dit, je ne peux pas ne pas vivre pour lui, en fait. J'ai plus eu du mal à croire en l'existence de Dieu qu'après passer de l'étape de croire en l'existence de Dieu et de vivre pour lui. Pour moi, c'est logique, c'est évident. Ah alors ouais. Que peut-être qu'il y en a beaucoup qui croient en Dieu, et peut-être beaucoup même qui se réclamerait d'un Solideo Gloria, dans le sens où gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, c'est une formule.
Ouais, on entend c'est Dieu qui donne, on entend.
Oui, c'est oui, ça. Bien sûr. Il y a un peu cette conscience, je pense, populaire, collective, que vas-y, il y a un Dieu et tout lui revient.
Mais
tout
ça
vient
devient
de
un peu une expression toute faite.
Et c'est là où je veux en venir, en fait. Beaucoup seraient d'accord avec le principe, mais en réalité, quand tu creuses un peu, en fait, on se rend compte. Tu as commencé à l'évoquer, qu'on est tous attirés par l'idolâtrie et qu'il y a des mauvais penchants dans nos cœurs qui rejettent la gloire de Dieu.
J'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est un peu différent de toi. Et pour moi, ce qui est dur, c'est de comprendre que c'est un Dieu de gloire. Et il m'a offert le salut et que du coup, je ne le mérite pas et que je ne le gagnerai pas. En fait, cette expression, Solideo Gloria, elle est aussi vraiment liée à nos tentatives de gagner le salut par nous-mêmes, aux œuvres, finalement. Ouais. Je pensais à Colossiens 3 aussi, où tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Là aussi, c'est par rapport à ce que je disais sur l'idolâtrie, ça rappelle forcément que nos actes, ils doivent être, bon, on en reparlera peut-être plus tard, focus sur le Seigneur. En fait, le bien qu'on fait, faut vraiment qu'on se rappelle de ça, le bien qu'on fait, c'est une bénédiction de Dieu pour le monde. Et c'est pas une bénédiction de nous pour le monde. Moi, c'est ce que j'essaie vraiment de me dire. Par exemple, les enfants qu'on fait sont des cadeaux. En tout cas, on va les éduquer le mieux possible pour qu'ils soient des personnes bonnes dans la société, mais pas simplement pour qu'elles soient bonnes, mais pour faire du bien à la société. Et notre prière avec Sarah, c'est que nos enfants soient une main tendue de Dieu à l'humanité, quoi, quelque part.
Tout ce qu'on peut faire de bon, à la base, c'est lui qui le fait en nous.
Ouais.
Ça, c'est un très bon rappel, parce que je pense que, naturellement, on l'oublie. Bah, on a tendance à se donner du mérite.
Mais ce qui est beau aussi, c'est que, parallèlement, même si à Dieu seul soit la gloire, l'expression, elle peut être un peu problématique, parce que, parallèlement, Dieu nous invite à partager cette gloire. Et en fait, en tant que chrétien, on est appelé à être glorifié.
Waouh.
C'est très fort.
Faut qu'on en parle de ça.
en tant que chrétien, on partage quelque chose qui relève de la gloire de Dieu, même si il faut persister avec le « à Dieu seul soit la gloire ».
Ouais, je pense que c'est Romains 8 qui dit ce qu'il a appelé, qu'il a prédestiné à l'appeler, et ensuite, la suite du verset dit qu'il les a appelés à être glorifiés avec lui, quelque chose comme ça.
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on dit « à Dieu seul la gloire » sous l'idée au Gloria, mais du coup, là, c'est pas à Dieu seul la gloire.
Alors,
c'est quoi la carotte ?
Voici ce que dit Paul, donc, dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 10. « La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. » Alors, faire le bien dans l'Épître aux Romains, c'est marcher après le Seigneur, hein, c'est pas faire le bien en lui-même. « Pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. » Donc, on aura cette gloire, cet honneur et cette paix. Mais ça ne veut pas dire, et c'est peut-être la nuance avec le « à Dieu seul soit la gloire » et la gloire qu'on va avoir, c'est que cette gloire, c'est une gloire qui nous est donnée par le Seigneur.
Voilà. C'est pas gagné, c'est reçu.
C'est reçu, tout à fait, ouais.
Mais de mémoire, Romains 1 et 2, ça parle beaucoup justement de la condition pécheresse de l'homme.
Ouais, c'est-à-dire exactement,
que
ouais.
J'aurais tendance à penser peut-être que dans le contexte, dans Romains 2, oui, la gloire, l'honneur viendront à celui qui fait le bien, mais personne ne fait le bien, il y en a un.
Ouais.
Qui a vraiment fait le bien.
Un seul, ouais.
C'est Jésus.
C'est Jésus, ouais.
C'est le seul qui a été sans péché, sans défaut, et qui n'a jamais désobéi. Et donc finalement, cette gloire qu'on aurait pu recevoir à cause de nos œuvres, en fait non, on est tous sous la condamnation au final.
Ouais, c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a le sacrifice, et c'est pour ça que dans l'épître aux Romains aussi, c'est pour expliquer la place du peuple juif dans l'histoire du salut, mais il termine bien en disant hein, le juif tout d'abord, mais aussi le non-juif. Donc c'est vraiment une gloire, la gloire du Christ, sa perfection qui est reléguée, redonnée, transmise.
En fait, Jésus
est
un peu notre représentant devant Dieu.
Ouais, c'est ça.
Et la gloire que lui a acquise, qu'il a méritée, il nous la transmet. On est participant de la nature divine. Et
on est co-héritier, on est tout ça, bien sûr.
Ouais. Donc en fait, Jésus, c'est là la force du fait que Dieu se soit fait homme, en fait.
Mais ce qui est encore plus ouf, quand j'ai commencé un petit peu à réfléchir à cette question de la gloire et la gloire de la transmission de la gloire, c'est que Jésus lui-même, il dit que sa gloire lui vient de Dieu. C'est quand même fort, quoi. On peut vérifier, je l'ai noté. Jean 8, c'est au verset 54. « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu. »
Ah, c'est intéressant. Mais ça, j'en parlais d'ailleurs, je ne sais même plus dans quel épisode, mais j'en parlais avec un autre invité. C'est le fait que Jésus lui-même, il dit, moi, si je viens en mon propre nom, il ne faut pas m'accepter.
En fait. C'est ça, ouais.
Et c'est la force aussi de la foi chrétienne, c'est qu'on n'a pas un gourou qui est venu et qui s'est autoproclamé. Non, il a reçu la gloire du Père et il y a toutes sortes de choses qui témoignent en sa faveur, ses œuvres, les prophéties, etc.
Et là, il se positionne en exemple. Lorsqu'il dit donc que c'est le Père qui lui rend gloire, et ben en fait, nous, la gloire du chrétien, c'est la gloire que nous donne. En fait, on peut dire que Jésus nous glorifie. Mmh. Et parce qu'il nous. En fait, le salut qu'il a acquis à la croix, il l'a acquis pour nous. Mmh. Et donc, il nous le transmet puisqu'il n'en avait pas besoin.
Waouh. Mais cette gloire qui nous est promise, parce que là, quand on parle de ça, on parle surtout de la résurrection, du retour de Jésus, elle nous l'est promise à ceux qui vivent justement pour la gloire de Dieu.
Ouais, c'est ça.
Donc, ça remet aussi les choses dans l'ordre.
Oui, c'est ça.
Et de dire, on ne doit pas rechercher cette gloire.
Non,
c'est pas un truc. La Bible nous en parle en disant qu'on aura des corps glorifiés, mais c'est l'humilité précède la gloire, justement. C'est ce principe-là de dire non, c'est ceux qui s'humilient et qui cherchent à glorifier Dieu avant tout, c'est ces personnes-là qui vivront cette résurrection et ce moment de gloire éternelle.
Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, je pense que le fait de le savoir, la conséquence pratique pour le chrétien, c'est certes l'humilité, tu as raison, mais aussi la dignité. C'est-à-dire, parfois, en tant que chrétien, on va avoir tendance à se mettre, on va dire, sous le statut, le titre de pécheur. Sauf que c'est pas ça, notre titre de chrétien. C'est pas, je suis pécheur et c'est plus ça.
Ouais, c'est plus notre identité.
Non. En tant que chrétien, nous sommes dignes.
Waouh.
Ouais, c'est trop fort. Parce qu'on est fils de Dieu.
Waouh. Mais on est indigne, on est pécheur,
ouais.
Mais en Christ,
c'est ça.
On est rendu digne.
Ouais.
C'est Romains 8, verset 1, donc, il n'y a plus maintenant aucune condamnation.
Et donc, à Dieu seul soit la gloire. Parce que si c'est possible, c'est parce que lui a fait ce qu'on ne peut pas faire. Mais n'empêche qu'on a une dignité à observer en tant que chrétien. Et cette dignité, elle va dans nos actes. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu vois, donc les œuvres ne nous sauvent pas. Notre gloire n'est pas liée à nos œuvres, mais parce qu'on est digne, parce qu'on est glorifié, et on est appelé à l'être, il y a des choses qu'on ne peut pas faire.
Oui, parce que dire qu'on est saint, qu'on n'est pas pécheur, c'est pas dire qu'on ne pêche plus.
Voilà, mais c'est pas pareil.
C'est une manière de, justement, comme tu dis, de pas être OK avec le fait de pécher, quoi.
Ouais.
Dans le sens où c'est plus notre identité, ça correspond pas à qui je suis, en fait. Si je commets un péché, je peux pas me dire « je suis pécheur, c'est normal que je pêche ». Non, là, je suis dans un mauvais état d'esprit. je devrais me dire, non, si j'ai commis un péché, ça ne correspond pas à qui je suis.
Voilà.
Ce n'est pas ça qui reflète ma nature.
En fait, le péché est contre nature.
Pour quelqu'un qui est né de nouveau.
Voilà, c'est ça.
Ouais, ouais.
On change de nature complètement.
Wow.
Et donc, cette histoire de dignité, je la trouve importante parce que on a tendance à l'oublier en tant que chrétien. Et peut-être aussi à trouver que Dieu m'a sauvé et c'est chouette et plus tard je vais changer et plus tard ça va être parfait. Mais en fait, dès maintenant, on est vraiment appelé à vivre selon cette gloire de Dieu.
Waouh. Ça fait grave réfléchir. On peut élargir le principe de dignité à tous les êtres humains.
Alors oui,
d'une certaine manière,
parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu,
ouais,
parce qu'ils sont à part dans la création, etc. Mais t'as raison. Mais il y a une dignité particulière aux fils de Dieu.
La création attend la révélation des fils de Dieu.
Ouais.
C'est ouf.
Ouais.
Waouh. Comment toi concrètement tu vis ce principe de Soli Deo Gloria? Quels sont tes défis et quels conseils tu donnerais pour qu'on puisse le vivre concrètement, ce principe de vivre pour la gloire de Dieu seul?
Ça, c'est des questions dures. C'est des questions dures. Moi, j'ai commencé par le défi. Je pense qu'un de mes plus gros défis dans la vie, vu mon caractère, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que Dieu m'a fait la grâce de réussir facilement les choses, scolairement, au niveau de l'emploi... Même financièrement, ça va. Enfin, sur tout un tas de choses, Dieu m'a béni, me bénit d'un point de vue très concret. Et moi, je suis très orgueilleux. Et je me trouve plus intelligent que tout le monde. Et je me trouve plus sick que tout le monde. Et voilà. Ça, c'est un vrai problème parce que je vais avoir tendance à me glorifier moi-même, en fait, finalement. À dire, ouais, moi, ma prédication, elle est un peu mieux que celle d'un tel. Ouais, moi, je préfère faire les choses par moi-même, parce que quand c'est un tel qui les fait, c'est un peu plus lent. Enfin, moi, c'est vraiment... Là, je suis franc, hein, c'est des pensées que j'ai.
D'accord, mais ça se voit pas, en tout cas.
Ouais, peut-être ça se voit pas, mais c'est des pensées que j'ai.
Ouais,
et la première qui s'en est rendu compte, c'est mon épouse.
J'imagine.
Et elle, le mariage, c'est quand même bien pour la sanctification, parce que elle dit les choses telles qu'elles sont.
Ouais.
Et donc ça, c'est un vrai combat parce que c'est de l'amour de soi qui n'est pas bon. C'est de l'amour de soi parfois au détriment des autres. L'orgueil, c'est pernicieux parce que tu vas avoir une image de toi au détriment d'une image des autres. Et en fait, j'ai l'impression quand même que la Bible, elle nous encourage à valoriser plutôt les autres plutôt que soi-même.
Oui.
On est à fond dans une société où on pratique à fond l'estime de soi, l'épanouissement personnel. Mais la Bible, elle est plutôt sur l'estime de l'autre, l'épanouissement de l'autre. Donc c'est quand même... Voilà. Ça, c'est les défis auxquels je fais face qui, je trouve, dans ma vie concrète, font que je ne rende pas toujours gloire à Dieu.
C'est Philippiens 2 où il est question de... voir l'autre comme supérieur à soi-même,
ouais.
De considérer d'abord les intérêts de l'autre. Avant que tu puisses donner des conseils justement pratiques, moi je voudrais réagir un petit peu à ce que tu as partagé là et avec ce qu'on partageait avant. Donc tu dis, le monde encourage à l'estime de soi et parfois ouais, à l'autoglorification. Le monde encourage aussi à un truc, et c'est des choses qu'on voit même parfois dans l'église, le truc de dire « je suis une bonne personne
ouais. »,
de jamais parler négativement de soi-même. Pourtant, toi, tu l'as dit, je suis orgueilleux. Je me dis, waouh, c'est ouf de dire ça déjà. Pourtant, juste avant, on disait, mais on ne doit pas dire qu'on est pécheur, ce n'est plus notre identité. Comment faire le bon équilibre là-dessus? Parce que moi, je vois clairement dans des églises des discours qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible, mais qui vont dans ce sens-là de dire... on a tous de la valeur, on est tous des bonnes personnes, tu vois. J'entendais un prédicateur qui faisait répéter à l'assemblée « je suis quelqu'un », tu vois.
Ah ouais,
c'est... ce principe-là et tout.
C'est de l'endoctrinement à ce stade.
Bose. Après, je pense, des fois, il y a des gens qui ont besoin aussi
oui,
de retrouver
sûr,
une
ouais.
estime de soi, de comprendre qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, parce que je pense qu'on dit qu'on a de la valeur, c'est surtout aux
bien
yeux
sûr.
De Dieu.
Et t'as raison, il faut aussi être terre à terre. Il y a une différence, et je pense comme moi, tu l'as pris en philosophie quand tu étais en terminale, entre en acte et en puissance. Ce sont deux... Non,
ça,
tu te rappelles pas
rien.
Souvent, on met deux notions ensemble. Ce qu'on est en acte, c'est ce qu'on fait.
Okay.
Ce qu'on est en puissance, c'est ce qu'on est appelé à être, si tu veux. Okay. C'est une distinction qui est vraiment intéressante. On l'emploie notamment dans le milieu judiciaire. Les violeurs en acte, c'est ceux qui ont déjà commis du viol, par exemple. Et les violeurs en puissance, c'est des violeurs potentiels.
Okay.
Donc c'est une distinction qui est intéressante. Et je pense qu'elle a sa place dans notre discussion parce que on voit bien qu'en acte et en puissance, on n'est pas pareil. En acte, effectivement, on peut le dire, on est pécheur. On ne peut pas dépasser ça. Mais en puissance, on n'est pas pécheur, on est saint. En puissance, on est digne. En acte, on commet des indignités. Pour nous-mêmes, je veux dire, les péchés qu'on fait vis-à-vis de Dieu, on les fait vis-à-vis du prochain, on les fait aussi vis-à-vis de nous. On est indigne. Donc cette distinction philosophique, je la trouve pertinente, en fait, pour ce dont on parle.
Ouais, ouais. Mais tu vois, est-ce qu'on doit dire, justement, je suis orgueilleux, tu sais, il y a cette doctrine qui voudrait qu'on proclame que des choses positives sur nous et sur nos vies. Ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas de l'Église. À la base, ça vient du monde, c'est la pensée positive.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais il y a plein de gens qui font le lien avec des versets bibliques. Hein, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou encore, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais du coup, on applique ça en disant, mais si tu proclames des choses négatives, tu vas y croire et donc ça va arriver. En fait, est-ce qu'on doit dire ce genre de choses avec toute transparence, avec toute sincérité sur nous-mêmes? Ou est-ce qu'au contraire, on doit essayer de penser autrement, de se forcer à se dire, non, je ne suis pas mauvais, Dis-nous un peu, c'est quoi...
J'ai compris ta question. Ouais. Alors, moi, je te réponds ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ce dont tu parles, là, t'as raison, c'est pas biblique et c'est de la superstition. C'est clairement de la superstition. Et la superstition, c'est de l'idolâtrie. Le fait de penser que nos paroles vont faire qui nous sommes, c'est un manque de lucidité claire. Et puis, c'est trop beau pour être vrai.
Là, t'es en train de dire une dinguerie. Hein, parce que là, c'est clairement... toute une partie du christianisme moderne qui prêche ce genre de choses.
Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas moi qui dis une dinguerie. Tu vois. Voilà. Ouais. Non, j'ai l'impression que c'est pas moi qui dis une dinguerie. Et du coup, la vérité, il faut la dire aussi. Non, c'est clairement de la superstition et d'imaginer qu'on peut devenir quelqu'un parce que l'on dit et que des situations peuvent ne pas nous arriver parce qu'on ne les a pas dites. Franchement, c'est de la superstition.
Ouais, ouais. Et souvent, on entend, après, des fois, c'est sur le ton de la rigolade, mais sans effet. Tu sais, quelqu'un dit à côté, ah, sans effet, tu vois.
Ouais, heureusement que c'est sur le ton de la rigolade, ça, et ça me fait rire, j'aime bien, je suis partisan. Alors, quand même, pour revenir à ta question qui était, qu'est-ce qu'on doit dire finalement? Est-ce qu'on doit dire je suis pécheur, ou est-ce qu'on doit dire je suis pas pécheur, je suis saint? Ben, moi, je pense qu'il faut dire les deux. C'est-à-dire que, sans considérer que je suis schizophrène, et que j'ai deux personnes, je pense pas que j'ai deux personnalités, mais je sens vraiment en moi que je suis saint. Pas par moi-même, hein. C'est très clair. Mais je sens que j'ai de la sainteté en moi. Et je sens clairement que cette sainteté, elle n'a pas encore toute sa place.
Oui, mais l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Voilà.
Mais et c'est vrai que dans la réalité de nos vies, des fois, on le voit pas.
Ouais.
Et ça peut être décourageant.
C'est ça. Et du coup, pour reprendre, en fait, comment faire pour glorifier Dieu plutôt que nous-mêmes, ce qui est, en fait, c'est une question qui est très dure, parce qu'elle pose la question du faire. Et en fait, la question du faire, elle est toujours très dure. Parce que, on l'a dit, le salut est acquis par grâce, donc pas parce qu'on fait. Notre sainteté est acquise non pas parce qu'on fait, enfin, si, quand même, si. Mais
à l'origine,
quoi,
c'est d'abord déjà ce qu'on croit, et d'abord l'œuvre de Dieu. Et après, ça va se découler dans nos actes et dans nos habitudes. Et...
Ouais. Voilà, donc pour la question des conseils, moi, mon conseil, il va un petit peu presque à l'opposé, à la place de faire, ne fais pas. C'était plus ça.
Ouais,
c'est-à-dire, ne cherche pas à gagner ton salut. Ça c'est vraiment important qu'on l'entende. En fait, on a aussi, je pense... C'est pas une hérésie, mais le rapport d'une branche du christianisme à la piété, je le trouve problématique, tu vois. Essayer de faire des choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais justement pour être meilleur, pour ci, pour ça. Alors peut-être que la finalité, le but, c'est effectivement la gloire de Dieu, mais ça me pose vraiment des questions sur l'ordre du faire.
Parfois, c'est pour mériter quelque chose aussi,
pour obtenir
de Dieu.
Mais oui, alors on peut parler du jeûne, par exemple. Moi, j'ai du mal avec le jeûne. Parce que, alors c'est quelque chose qui disparaît vraiment dans le Nouveau Testament. J'emploie une hyperbole, Jésus en parle un petit peu. Dans les actes, on voit aussi des personnes jeûner, mais vraiment, dans les épîtres, ça a disparu pratiquement. Il y a pratiquement... ça se fait plus. Dans les actes, c'est descriptif plutôt que normatif. Mmh. Et Jésus, il s'adressait à une communauté juive pour qui, effectivement, le jeûne, ça faisait partie un petit peu de la culture ambiante.
Jésus dit « quand vous jeûnez, il y a un truc comme
ouais, ça ». Oui, c'est ça. Justement, quand vous jeûnez, c'est par rapport aux pharisiens.
Oui, et il dit aussi « mes disciples, pour l'instant, ils ne jeûnent pas parce qu'on reproche à ses disciples, oui, etc. Et » Il dit, mais c'est normal, le marié est là et tout, mais quand il sera plus là, là, ils jeûneront.
Et ils l'ont fait, ouais, dans les actes.
Mais moi, je vois ça quand même comme une prescription, un petit peu, de dire, les disciples de Jésus, ils jeûneront.
Bah, je pense pas.
Ah ouais?
Ouais, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'adressait aux 12, et les 12 ont jeûné, effectivement, dans l'entre-deux.
Ah ouais?
Ouais. Et en fait, il y a un verset qui resterait, mais qui pour moi ne fonctionne pas, c'est le verset sur ces démons-là ne
sortent que par le jeûne et la prière.
Ouais.
Ouais, ouais.
En fait, je ne le garde pas parce que... Alors, je garde, ces démons-là ne sortent que par la prière, mais pas par le jeûne, parce que... là, c'est un peu technique, hein, ce qu'on fait. Mais les manuscrits les plus anciens qu'on ait, ne l'ont pas. Et en fait, ça coïncide vraiment... on peut... plus ou moins daté à quel moment ça a été rajouté. Et le christianisme s'est déjà installé depuis un certain temps, mais aussi certaines sectes, ascètes. Ascètes, ça veut dire que lié à la privation. Et donc, c'est à ce moment-là que ce genre de versets apparaissent, enfin d'ajout. Et d'ailleurs, dans nos Bibles, c'est entrecroché. Et donc, moi, j'ai un vrai problème avec le jeûne parce que ça ne correspond pas, je trouve, avec... Avant, je jeûnais une journée par semaine, hein, c'est pour te dire, mais j'ai aussi un petit peu... évoluer dans ma pensée, mais je trouve que ça correspond pas avec ce que la Bible nous enseigne sur le corps et la manière dont on doit en prendre soin.
Bah, le jeûne, c'est quand même prendre soin du corps, hein. C'est bon pour la santé. Hein.
Ah oui ?
Ouais. Après, ça dépend comment tu jeûnes. Mais je suis choqué par ce que tu me dis là.
Ouais, je sais. Mais je sais que c'est pas. C'est
bah,
pas...
Je crois que t'es le seul dans le monde entier qui.
Non ? Non, je suis pas le seul. Non.
Sérieux, t'as trouvé des potes comme ça ? J'avais jamais entendu cette position là. Creuser, mais ce qui est en tout cas ce
à
qui
creuser,
est
mais de toute manière, tu vois, quand t'es un peu sincère et que tu vois que de toute manière ce sont des ajouts, tu vois, tu
non,
dis...
mais le truc d'ajout, déjà, moi j'ai du mal. Ah, et après, Marc XVI, c'est pas biblique aussi,
c'est un autre débat.
Moi, je crois en la souveraineté de Dieu, même dans l'histoire, et je me dis que Dieu l'a permis et Dieu l'a voulu, tu vois. Donc, ça enlève pas le travail de critique textuelle qui doit être. Qui est primordial, qui est important, de comparer les manuscrits et tout ça. Mais
c'est marrant parce que...
Mais j'ai du mal à retirer des... des versets de la Bible, tu vois.
Ouais, alors, je t'ai dit, il y en a qui mettent entre crochets. Là, c'est un petit... Bon, tu couperas. Ouais, ouais. Mais alors, il y en a qui mettent entre crochets. Mais alors, carrément, la Bible du Semeur, c'est le Semeur, ça, ou pas ?
Non, S21.
Alors, tu sais, le miracle de la piscine, là, avec l'ange qui secoue la piscine, et le premier qui se baigne, il est guéri. Tu vois ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 ou 5, je sais plus. Ils l'ont sauté.
Ils l'ont enlevé?
Ah non, genre, ils l'ont même pas mis en crochet.
Ah ouais?
Alors moi, j'avais préparé mon étude biblique. Et puis on commence à lire. Elle a fait un flop, mon étude, quoi, sans se verser. Je l'ai rétabli quand même. Mais je trouve ça gros, quoi. Bon, c'était un détour.
Non, mais j'avais déjà remarqué. Alors là, c'est des versets entiers, ça, j'avais pas vu.
Mais du coup, en fait, textuellement, quand tu lis, tu vois verset 13, verset 15.
Okay.
Le 14, même pas
d'accord,
rien.
D'accord, ouais, c'est un verset.
Inexistant.
D'accord, mais l'épisode est toujours là, mais il y a un détail qui...
Eh ben c'est
l'ange qui descend, qui...
C'est ce détail quand même qui a son importance.
Ouais.
Bon, bref, pardon, on s'est
un peu égaré. Non, mais tu sais que je vais garder ça. C'est trop intéressant. Moi, j'ai déjà vu des petites différences, des fois un mot en plus, un mot en moins, tu vois.
En
général, ça ne change pas le sens.
Pour « et le jeûne », c'est trois mots en plus, tout à fait.
Ouais. Après, sur « et le jeûne et la prière », moi, j'aime trop ce passage parce que je trouve que c'est un argument de ouf contre certaines pratiques de combat spirituel contre les démons. Et c'est là qu'on voit que la prière, c'est plus fort que toute autre chose. Donc c'est ouf, tu vois.
Ouais.
Et donc je mettrais le jeûne avec la prière quand même. Je vois pas de grosses différences, parce que là, à la base, la question, c'était sur le fait de la vie de piété. Donc quand on parle de la vie de piété, c'est la discipline de la vie chrétienne, lire la Bible, prier, la vie d'église, toutes ces choses-là, que cette discipline-là ne devienne pas...
une fin en soi.
Une fin en soi, ouais. Que ça soit pas d'une manière non plus d'obtenir de Dieu quelque chose, que ce soit plutôt des moyens de grâce que Dieu nous donne pour expérimenter une relation avec lui.
Ça interpelle parce que... en fait, et c'est quand même très beau parce que c'est lié aussi à l'action du Saint-Esprit en nous qui est différent, Mais tu vois, t'as des personnes qui, pour la gloire de Dieu, ne vont pas écouter certaines musiques. Mmh. T'as des personnes qui, pour la gloire de Dieu, vont, c'est un petit peu Paul qui nous le dit, manger, s'abstenir de telle ou telle viande. Mmh. Et pour notre civilisation à nous, ici en France, on va penser à la viande halal, par exemple. Mmh. Est-ce qu'on en mange ou pas ? T'as certains chrétiens qui vont plutôt avoir une vision du dimanche et du sabbat. On pense au film Les Chariots de Feu, par exemple. Tu vois, je cours pas le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Ouais. Et donc, ça, c'est très intéressant, l'action de Dieu en nous. Tout ça, moi, c'est ce que j'appelle la piété. Mmh. Mais voilà, la piété doit être un moyen, je pense, de célébrer la gloire de Dieu et pas une fin en soi. Parce que si c'est une fin en soi, on tombe dans le légalisme, on tombe dans il faut faire pour faire. Ça va être, en gros, ceux qui ne font pas ça sont des faux chrétiens. J'ai un peu du mal avec ça.
Mais en vrai, si tu lis jamais ta Bible et que tu pries jamais, il y a des questions à se poser.
Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais,
mais moi, je mets, moi, je
attention
mets le jeûne.
À ce genre
après,
de
peut-être
discours.
Que le jeûne, comme c'est quelque chose de très attaché à la privation et peut-être quelque chose de rituel, il y a peut-être un risque particulier. Mais moi, je le garde quand même dans la même catégorie que la prière. Et je pense vraiment qu'il y a un bénéfice spirituel, dans le sens où parfois on a besoin de se priver, besoin de mettre du temps à part, besoin de se consacrer en fait à Dieu. Et je crois que se priver de nourriture et même peut-être de téléphone, d'autres choses, ça peut être très bénéfique pour notre relation avec Dieu.
Ouais, je sais pas, moi, bon, je te crois, parce que tu me parles d'expérience aussi, mais je suis pas hyper convaincu, quoi, par...
Mais même si c'était pas un concept biblique, tu ne penses pas que ça peut être bien pour quelqu'un de se dire « Moi, pendant un temps, je vais arrêter une activité pour prendre plus de temps dans la méditation dans... ?»
Si, 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 bien sûr, bien sûr. Mais à nouveau, que ce soit pas une fin en soi, quoi. Mmh. La marque du christianisme en nous.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? Mmh. Et qu'on commence à juger ceux qui le font pas, par exemple.
Oui, oui.
Et t'as raison, on pourrait se poser des questions pour les chrétiens qui prient pas tous les jours ou qui lisent pas la Bible tous les jours.
Mais... ou qu'ils ne lisent pas la Bible du tout. Hein.
Mais dans le Nouveau Testament, en fait, ils ne lisaient pas la Bible tous les jours.
Oui.
Ils n'avaient pas le canon entier.
Mais ils l'écoutaient.
Ils étaient, pour beaucoup, ils étaient... Oui, bien sûr, ils l'écoutaient.
Ils l'apprenaient, ils la récitaient.
Ouais. Et puis, ils se voyaient tous les jours.
Ouais. Ah. En fait, la lecture de la Bible tous les jours, ça pallie à d'autres choses qu'on ne fait pas.
Ouais. Ouais, ouais.
Moi, je pense que le principe, ce n'est pas lire forcément au sens littéral, mais c'est le principe de Josué 1:8. Tu vois, c'est médite la parole de Dieu
ouais,
jour
c'est
et
ça.
Nuit.
Ouais, ouais.
Nous, on a besoin de la lire. Enfin, on a besoin.
On a la chance,
on a la grâce d'avoir la Bible papier. Pour ceux qui savent lire, déjà, c'est super.
J'ajoute quelque chose par rapport à ce que tu dis. Tu vois que j'ai beaucoup employé le terme d'idolâtrie. Mmh. En fait, sans la Bible, on devient idolâtre. Nos pratiques... on les appuie pas bibliquement, on devient idolâtre. Ce qui me fait dire ça, c'est Jephté. Tu vois, Jephté, en fait, son problème vis-à-vis de Dieu, c'est qu'il avait une image erronée de Dieu. Jephté, hein, je resitue pour ceux qui auraient oublié, en gros, il fait un vœu à l'Éternel de, s'il a la victoire lors d'une guerre, le premier être humain qu'il voit, il l'offre en sacrifice. Mmh. Mais littéralement, quoi.
Mmh.
Et la première humaine qu'il voit, c'est sa fille.
Ouais, c'est,
voilà. C'est dans Juges, chapitre 11.
Mais tu sais qu'il y en a qui pensent que justement, c'est pas littéral.
Oui, oui, je sais.
Il a consacré sa fille.
Franchement, non, mais franchement, ça tient pas. Mais bon, c'est un autre
mais
débat.
Vu qu'il est cité quand même au roi de la foi, ça fait poser
non,
quand même
bien
des
sûr,
questions.
On est d'accord. Bah, David aussi, enfin, on...
Oui.
Tous les héros de la foi sont pécheurs. Hein.
Oui, c'est sûr.
Mais bref, je reviens à Jephté. Le problème de Jephté, c'est que sa vision de Dieu à ce moment-là, elle est complètement erronée. Parce qu'il pense que Dieu peut prendre plaisir à des choses qu'il a interdites par ailleurs. Mmh. Finalement, Jephté, je pense qu'il s'est fait une espèce d'évangile de la prospérité avant l'heure, où il s'est dit, bon, okay, si j'ai la victoire, donc j'y gagne une rétribution. Et en fait, notre Dieu, c'est pas ça. C'est pas donnant-donnant, ami-ami, pacte-pacte. C'est pas du tout ça, quoi.
L'ancienne alliance est pas mal basée sur les œuvres, dans le sens où il y a des bénédictions associées à l'obéissance, des malédictions associées
oui, tout à fait.
À la désobéissance.
Ouais, non,
c'est à cause de cette ancienne alliance qu'on est tous sous la malédiction, et c'est ce que Jésus est venu régler, parce que lui-même nous procure la bénédiction.
Mais pour revenir à la lecture de la Bible, effectivement, je trouve que c'est important pour... si on veut vraiment glorifier Dieu, seul, il faut connaître ce Dieu.
Mmh.
Et on ne peut pas lui rendre gloire si on ne le connaît pas.
Mais du coup, la vie de piété, c'est important.
C'est ouais, non, mais de fou.
À ne pas négliger.
Ouais.
mais aussi à bien considérer.
Ouais, c'est ça.
Mais merci pour ces rappels, mais je dis quand même, lisez votre Bible tous les jours.
Ah, mais je suis grave d'accord.
Pour ceux qui n'aiment pas lire, vous pouvez l'écouter, on a des applications.
Ouais.
Parce que ça, c'est un vrai sujet. Moi, premier, j'aime pas lire, mais il y en a qui ont vraiment du mal et qui sont beaucoup plus à l'aise à l'écouter.
Ouais.
Y a tout ce qu'il faut pour l'écouter. Pour ceux qui peuvent aussi, qui arrivent à la mémoriser, c'est encore mieux. Et comme ça, il y a même plus besoin de la lire, t'as juste à te la réciter. Et ça, c'est une manière de méditer la parole jour et nuit.
Ouais, et donc, quand on peut le faire seul, on le fait seul, mais si on a besoin de le faire à plusieurs, on le fait à plusieurs.
Oui.
Nous, ce qu'on fait dans notre église, je t'en avais un peu parlé, mais ça fonctionne de ouf, et ça fonctionne sur la durée pour le moment, c'est trop bien. C'est qu'on a un groupe WhatsApp de lecture de la Bible. Franchement, il y a beaucoup de gens de l'église qui sont inscrits, je crois qu'on est une cinquantaine. En gros, il y a une personne qui prépare un chapitre avec une petite méditation qui l'accompagne. Là, on vient de terminer les 12 prophètes. Mais en fait, c'est vachement dur, les 12 prophètes. Mmh. Mais c'est hyper intéressant. Et le fait, en église, d'avoir réussi à faire un truc où, franchement, si on est tout seul, on saute les pages, on se dit, ah, c'est chaud, on l'a fait en église à 50, ça a grave bien fonctionné. Tout ça pour dire, moi, je distinguerais pas, même, je dissocierais pas la lecture de la Bible, la prière, de la vie communautaire. Tout ça, c'est vraiment un tout.
Mmh.
Et on peut lire la Bible en communauté, et c'est trop bien.
C'est intéressant la manière dont tu dis les choses, de ne pas distinguer forcément cette vie de piété, c'est un tout. Et parfois, on voit ce truc piété personnelle,
ouais.
Piété communautaire.
Culte personnel,
ouais,
d'ailleurs on appelle ça un culte.
Oui.
Alors que je pense que le culte personnel, il fait partie du culte communautaire.
Ouais, ouais,
et
ouais.
Et là, c'est une petite parenthèse.
Ouais.
Moi, ça m'interpelle en fait quand à l'église, alors que c'est un temps communautaire, quoi. De culte, quoi, de communautaire. Parfois, certains présidents ou conducteurs de louanges vont dire, pour introduire le temps de prière, vous pouvez prier dans votre cœur. Moi, au culte, je le considère comme ça. Si toi, tu pries, je vais dire amen, mais parce que ta prière, c'est ma prière, tu
vois.
Oui, oui. C'est comme ça que je le vis. En fait, une personne... moi, en tout cas, j'essaye d'introduire des choses comme ça. Vous pouvez prier au nom de l'Assemblée.
Ouais.
C'est plus comme ça que je vois cette prière communautaire, tu vois.
Ouais, mais c'est intéressant parce que je sais qu'il y a un amalgame sur le terme prière communautaire.
Ouais.
Il y en a qui comprennent ça comme tout le monde prie en même temps,
ouais.
En élevant la voix en même temps. Il y en a qui comprennent ça comme prière communautaire. Il y en a un qui élève la voix et tous les autres sont associés à sa
voilà,
prière.
Voilà, c'est ça, ouais. Non, mais après, là, c'est...
Il y a différentes manières de faire, de
toute façon. C'est ça, c'est pas, on rejoue pas à l'église avec ça. Hein. Mais je trouve ça important, tu vois.
Ouais.
Moi, je trouve ça, par rapport à cette dimension de la vie piété communautaire, on le voit dans les actes, la vie chrétienne, elle se vit pas seule. Elle peut pas se vivre seule.
Ouais. Et après, ça prend plein de formes différentes.
Exactement, ouais.
Mais c'est intéressant que même dans la lecture de la Bible, la prière... Et même quotidienne, il peut y avoir une
certaine
dimension.
Et même le jeûne.
Ouais.
Je sais qu'il y a de l'église jeune. Qui jeûne ensemble.
Ouais, ouais. Bah, tu vois.
J'en ferai pas la pub.
Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Avant de passer à d'autres questions, je voulais te faire écouter un son.
Vas-y.
Regarde en arrière, je vois les pas du père le long du chemin. Je regarde vers l'avenir, je le vois me tenir dans le creux de sa main. Je regarde dans le miroir, je n'y vois aucune gloire. Je vois aucun roi, je n'ai qu'un seul espoir, regarder et croire, celui sur la croix.
Alors t'en penses quoi ?
Archi lourd. Alors il y a des choses vraiment, j'ai bien aimé, j'ai noté.
Ok.
L'intégration du nous. En fait ça va bien avec ce qu'on a dit. C'est-à-dire c'est pas à moi et d'un coup c'est pas à nous, je m'y attendais pas. Et j'ai trouvé ça ultra pertinent.
Oui, c'est le début du psaume 113, pas à nous mais okay. À ton nom donne gloire.
Pas à moi, tout ce que j'ai n'est pas à moi. Pas à moi, et toi l'honneur, non, pas à moi. Pas à nous, à ton nom donne gloire. Pas à nous, éternel. Pas à moi, ma vie est à toi. Pas à moi.
Ça j'ai kiffé. Je m'y attendais. Et moi j'aime bien quand il y a des petites variations comme ça. Un autre truc que j'ai bien aimé. Plus que pour mon bonheur, c'est tout pour ton honneur. Stylé.
Plus jamais élever le ton plutôt que le donneur. Les faux dieux des voleurs, plus jamais je leur donne l'heure. Mes désirs à l'abandon pour que mon ego meure. Plus que pour mon bonheur, c'est tout pour ton honneur.
Et le dernier truc que j'ai kiffé, désolé je t'interromps.
Non t'inquiète.
C'est la première phrase.
Mon salut est cadenassé. S'il dépendait de moi, je l'aurais froissé. Comme un affranchi fier de son passé. Ce que Dieu a construit, j'aurais tout cassé.
Mon salut est cadenassé.
Mon salut est cadenassé.
S'il dépendait de moi, je l'aurais
froissé. En gros, ça m'a fait penser justement à Éphésiens 1, tu vois, qui parle de la gloire de Dieu,
mm-hmm.
Et en fait, qui parle du sceau de l'esprit. Faut bien se comprendre hein, ce que c'est qu'un sceau, mais le sceau, c'est l'équivalent du cadenas, quoi. Et le sceau de l'esprit dans Éphésiens 1, c'est justement l'assurance du salut. Le fait que le salut est cadenassé, si tu veux. Il est scellé par le Saint-Esprit. Bah, j'ai kiffé, moi.
Trop
ça, c'est
bien.
Des thèmes que j'aime.
Ah, très bien. Ouais, ça fait
et
plaisir.
Donc, l'image est très belle. Elle est moderne. Ça reprend le sceau de l'esprit, mais version moderne.
Ouais. Et s'il dépendait de moi, je l'aurais froissé. J'avais Rubens l'autre jour pour parler de Sola Gracia et je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut perdre le salut ?
Alors,
il m'a dit, pour moi, non.
Ah,
pour
okay.
moi, je ne peux pas le perdre.
Okay.
Mais je ne peux pas répondre de manière générale. Il m'a dit, je ne sais pas.
Okay.
Sur la doctrine, le point de doctrine.
Okay.
C'est grave intéressant, tu vois. Mais bon, toi et moi, je sais qu'on croit qu'on ne peut pas perdre le salut.
On ne peut pas, non.
Et cette phrase qui dit... S'il dépendait de moi, je l'aurais froissé. Ça veut dire, en fait, si je pouvais le perdre, je l'aurais perdu.
Bah, c'est clair.
Ah
bah,
c'est
clair. Ah bah, tous les jours.
tous les jours. Bon, ouais. On a dit Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette mode de mettre des hommes de Dieu en avant ? Alors, dans la Bible, bah, déjà, Jésus, c'était une star, un peu, quand même. Il réunissait des foules.
Les mêmes foules qui l'ont complètement abandonné une semaine après. Hein.
c'est vrai. Mais je pense que c'est pas forcément un problème d'être connu, reconnu, d'attirer du monde même. Mais il y a un risque quand même. Il y a un risque, tu as parlé d'orgueil tout à l'heure, il y a un risque, pas forcément par rapport à la personne, son cœur, mais par rapport à comment les gens le considèrent. Parfois, il y a d'autres intermédiaires entre Dieu et les hommes que Jésus.
Bah, clairement, ouais.
Et ça, c'est un vrai danger. Est-ce que toi aussi, tu constates ça ? Qu'il y a des gens qui... Parfois, on met plus en avant les hommes de Dieu que Dieu lui-même.
Je ne pense pas que ce soit un problème moderne pour l'Église.
Ah oui ?
En fait, ça a toujours existé. Tu vois, quand tu lis l'épître à 1 Corinthiens, il y en a qui se réclament de Paul, d'autres d'Apollos. Et en fait, c'était des petites stars locales, quoi, au sein de l'Église, qui divisaient d'ailleurs. C'est-à-dire que certains vont préférer un tel comment il prêche, d'autres... Voilà. On l'a aussi vu, tu sais, dans les mouvements en Angleterre, au moment des réveils, justement, où les grands prédicateurs remplissaient des églises, etc. Il y a toujours eu un peu cette starification. Mais là où je te rejoins complètement, avec les réseaux sociaux, ça prend une autre dimension. Parce que c'est plus simplement du bouche à oreille. En fait, ça peut être quelqu'un de complètement inconnu, dont on n'a jamais entendu parler, mais dont on a vu une vidéo par hasard sur YouTube, par exemple, qui va devenir, faut que j'arrête avec ce terme, mais presque une idole. En tout cas, un intermédiaire ou un médiateur entre Dieu et les hommes. Et moi, ça m'a frappé. Quand je suis devenu pasteur en 2021, j'ai rencontré une femme qui, avant, était à l'église et qui était partie un petit peu, et qui quittait Le Mans le samedi soir en Flixbus pour aller à Lille, 5 heures de route en voiture, donc en Flixbus, j'imagine 10 heures, on va dire, il y avait un changement à Paris, à Lille pour le culte du dimanche matin, et pour revenir le soir au Mans pour commencer le travail lundi.
Mm-hmm.
Pour un prédicateur. C'est chaud.
Bah, il y en a pas plus... qui font ça. Hein.
Là, bah ouais. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça, du Mans à Lille en Flixbus. Ah, franchement, ça marche par la foi, mais...
C'est vrai que ça fait des gros trajets, mais en région parisienne, t'en as bien qui font des 2 heures pour aller à l'autre bout de Paris.
Ouais, mais je sais, et en fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je ne citerai pas d'église, mais je vais plutôt à cette église parce que j'aime bien un tel. En fait, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et ça, pour moi, il y a deux risques possibles. Le premier risque, c'est de vivre la foi par procuration. C'est-à-dire, toi, tu parlais de médiation.
Oui.
On peut aussi parler de procuration, c'est-à-dire que ce que va dire la personne, on va pas avoir de filtre du tout. On va pas finalement le passer à la Bible.
La lumière de la parole.
Ah ouais, c'est ça. Et donc de le boire comme parole d'évangile. Et le deuxième risque pour la même personne, bah, c'est on perd Dieu de vue et on perd complètement. Je pense même la volonté de Dieu sur les églises locales, sur la manière de voir... toi, t'as employé le terme d'homme de Dieu. Moi, j'ai du mal avec ce terme.
Ah ben, homme de Dieu, serviteur de Dieu, on pourrait dire.
Mais on l'est tous.
C'est vrai.
On l'est tous. Moi, j'ai du mal avec les titres. Je sais que des fois, on reçoit des brochures « prophète un tel »,« serviteur un tel », »,« je sais pas quoi un tel ». Moi, j'ai vraiment du mal. Paul se présentait de la part de l'apôtre Paul. Mais c'est à peu près tout ce qu'on constate dans la Bible. On n'a pas ces titres qui accompagnent nos prénoms. Et en tant que chrétien, on est tous serviteurs et servantes de Dieu. Si on est là pour donner gloire à Dieu, La gloire qu'il nous, qu'il nous donne, elle n'est pas liée à un titre qu'on aurait. Et j'ai du mal avec ça, notamment parce que la réforme est venue rappeler le sacerdoce universel. Pour ceux qui ne connaissent pas, le sacerdoce universel, c'est que nous sommes tous prêtres.
Ouais.
Tous.
Ouais, ouais.
C'est, en fait, Dieu s'est acquis un peuple pour sa gloire, et ce peuple, il en fait une nation de sacrificateurs, c'est-à-dire de prêtres.
Peut-être que le terme homme de Dieu désignait justement des serviteurs, des prêtres.
Ouais, ou souvent des prêtres ou des prophètes. En fait, ceux qui avaient une des trois, on appelle ça office, hein, c'est-à-dire la prêtrise, la prophétie.
Le fils royal.
Voilà, et puis les rois. Et en fait, dans la Bible, ces trois offices sont unis.
Sont unis, c'est-à-dire
Unis en Christ,
oui.
Mais
donc,
unis pour le chrétien aussi.
Oui.
Et on lisait avec l'Église, je t'en parlais, c'est à la fin de Zacharie. Zacharie annonce l'union de ces trois offices en un homme pour le peuple.
Mmh.
C'est incroyable.
Ouais, ouais.
Et en fait, c'est vrai qu'en tant que chrétien, on parlait de la dignité, etc. Et ben, on est aussi co-héritier du Christ. On partage sa gloire et on est prêtre parce que lui, il est le grand prêtre.
Mmh. Et ça doit être dans 1 Pierre. Hein,
C'est 1 Pierre 2.
Voilà, au verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de
celui c'est très fort,
qui vous a appelé.
Tu te rends compte?
Non, c'est ouf.
C'est très, très fort.
Et c'est une citation de l'Ancien Testament.
Oui.
Donc, c'était un projet déjà de Dieu de se former un peuple de prêtres.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, parfois, on garde une mentalité de l'ancienne alliance. Alors qu'on est dans une nouvelle alliance et on garde cette mentalité de il y a certaines personnes qui sont comme des lévites, qui sont des représentants du peuple devant Dieu.
Mais en fait, qui ne sont rien. Et Paul, il avait, faut imaginer l'homme, il avait l'humilité de malade pour dire que finalement, il était rien.
Hmm.
Mais parallèlement, dans certaines de ses épîtres, il dit que pour le salut de l'âme de certains, il avait envie d'en retirer la gloire, quoi, plutôt que d'autres. Tu vois,
oui.
C'est intéressant quand même. Hein.
Dieu l'a utilisé lui.
Ben oui, c'est ça, ouais.
Mais c'est bien de rappeler qu'on est tous prêtres, qu'on est tous hommes de Dieu. Est-ce qu'on est tous prophètes? D'une certaine manière.
Ah oui, d'une certaine manière, certainement. Ah
alors,
oui, oui.
Attention, certains vont le comprendre différemment que ce qu'on veut faire comprendre.
Ah. Alors explique-nous.
Non, mais on est tous prophètes dans le sens où on a tous un rôle prophétique, dans le sens où on parle de la part de Dieu, on annonce la parole de Dieu, l'évangile.
Et donc on a l'Esprit Saint en nous, de même que les prophètes l'avaient, etc. Mmh. Bien sûr, ouais. Ouais.
Wow.
Tu posais la question de la starification et des réseaux sociaux.
Ouais.
On est tous des stars, mais le problème, c'est si on le reconnaît pas, tu vois.
On est tous des stars.
Non, mais
après, c'est peut-être normal qu'il y ait des personnes particulières qui vont impacter le monde d'une manière particulière.
Bien sûr.
Mais c'est là où est-ce qu'est le risque, où est-ce qu'est la limite? Tu as commencé à l'évoquer, c'est dans la manière de voir, de considérer la personne. Pourtant, il y a quand même cette notion, je pense, qui est biblique, de mentorat, de discipulat.
Ah oui, carrément. Même de pasteur, de responsable d'église, de tout ça, bien sûr.
Et on parle parfois de père spirituel, t'en penses quoi de ce principe-là?
Bah clairement, toi, t'as été un père spirituel pour moi, tu vois.
Voilà.
La petite larme. mais il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que, bah, tu vois, on n'est pas d'accord sur tout, on s'en fout. Mais n'empêche que dans ma vie, concrètement, Dieu t'a utilisé pour que je le connaisse, tu vois.
Ouais.
Moi, ça ne me dérange pas, la notion de père spirituel. Je pense être le père spirituel de certaines personnes. Mmh. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est simplement... en tout cas, ce que je mets derrière ce terme, c'est que Dieu, à un moment donné, a utilisé cette personne particulière pour atteindre une autre.
Mmh.
Moi, c'est ce que je mets.
Ouais, mais c'est vrai que je vois derrière ce terme-là, des fois, je vois des excès. Ce père spirituel peut avoir vraiment une place un peu trop importante.
Ouais, ouais, ouais.
Il a un mot à dire sur tout. C'est un peu parfois dangereux, ce truc-là.
Ouais,
il peut y avoir un peu d'abus spirituel,
ouais,
je pense.
Puis, ce qui est parfois étonnant, c'est que aussi parfois le père spirituel, il ne connaît pas la personne qui dit ça. C'est-à-dire, bah moi j'ai écouté ses prédications, et c'est mon père spirituel. Bah, elle est bizarre la relation filiale.
Non,
c'est.
Non, l'exemple biblique, c'est Paul et Timothée.
Oui, bah voilà.
C'est du discipulat.
Ouais. Mm. T'as aussi Jean et Gaius dans l'épître de 3 Jean. Enfin voilà, t'en as, et c'est quelque chose qui est bon, je pense. Mais ça reste du discipulat.
Mm.
Et ce qui doit être premier, c'est vraiment l'enseignement de la Bible.
Mm.
La notion de père spirituel, elle peut faire perdre de vue justement la gloire qui revient à Dieu seul. Mais Dieu utilise les hommes, de toute manière, qu'on le veuille ou non, Dieu utilise les hommes, et il le fait d'une très belle manière, d'une manière qui nous dépasse, parce qu'il dépasse nos fautes, il dépasse, tu le disais aussi dans la chanson que tu m'as fait écouter, ça dépend pas de nous, quoi. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien justement, toute gloire doit revenir à Dieu, y compris pour les hommes que Dieu utilise, quoi.
Ok, maintenant très concrètement, parce que là on a parlé de comment on doit pas considérer des hommes de Dieu ou des serviteurs. Maintenant moi, quel conseil tu me donnes ? Je suis artiste. Carrément là, je vais commencer un projet solo. C'est un grand pas parce que derrière Dévotion, c'était un groupe, donc c'était pas forcément moi en particulier qui était mis en avant. À partir du moment où on a un ministère public et peut-être encore plus dans l'art, dans la musique, ben on cherche un petit peu à se mettre en avant, à se faire connaître. C'est quoi le risque ? Et quel conseil tu me donnes en fait par rapport à ça pour pas tomber dans de l'orgueil déjà, et de pas mal utiliser mon image, de pas centrer les choses sur moi ? Tu sais, je suis aussi interpellé, des fois tu as des événements où... Et puis c'est arrivé pour nous, pour Dévotion, où en fait, c'est le nom de l'artiste, c'est la tête de l'artiste sur l'affiche, et c'est ça qui attire. Quoi penser de ça, en fait ? Est-ce que je dois arrêter complètement la musique et pas rentrer là-dedans ? Est-ce qu'il y a un juste milieu à trouver ? Et c'est quoi les garde-fous ?
Ouais, n'empêche que tu as raison, tu dois rester vigilant, ça c'est sûr, parce que t'es au front, quoi, en réalité. En même temps que tu vas être au front contre Satan pour annoncer l'évangile, pour prêcher, en même temps, il y a une guerre vis-à-vis de toi-même. C'est-à-dire vis-à-vis de toi-même pour ton orgueil, et Satan va chercher à te faire trébucher. Et en fait, la Bible, elle est quand même relativement très claire sur le sujet. La Bible, elle ne nous dit pas « Attention, il y a Satan », tu vois. Elle dit « Fuyez ». Et moi, mon conseil pour toi, c'est que pour chaque situation que tu pourrais rencontrer où tu te dis, faut fuir, je pense, tu vois.
Quel genre de situation ? Un truc où je me dis, ça se trouve, je vais trop kiffer.
Ouais, un truc où tu te dis, tentation de m'enorgueillir, par exemple. En fait, je te connais bien, ça fait 23 ans qu'on se connaît, je sais que t'es très humble et que Dieu se sert de toi avec puissance.
Gloire à Dieu.
Mais oui, exactement, gloire à Dieu. Mais je sais aussi que tu sauras faire face à ces questions-là. T'as le droit de kiffer avoir du monde, par exemple. Si, quand tu te produis en solo, quand tu feras des concerts et tout, tu as le droit de kiffer avoir du monde. C'est vrai que je préfère les prédications où on est 100 plutôt que celles où il n'y a que 10 personnes parce que c'est les vacances, tu vois. Mais bien sûr. Mais j'ai dit que j'étais orgueilleux, je ne mettrais pas ça sur mon orgueil. Mais c'est aussi parce que ça touche plus de personnes, parce qu'aussi tu as un peu moins l'impression de le faire pour rien, etc. Maintenant, c'est Dieu qui gère, hein. C'est pour sa gloire de toute manière. Mais voilà, moi je t'encourage à fuir à chaque fois que tu as l'impression que tu vas être tenté par l'orgueil, que tu vas être tenté de faire les choses pour toi, en fait, et de te glorifier. Maintenant que ton nom soit en tête d'affiche, c'est pas mal ça, hein. Tu penses à des Jesus Festival, des trucs comme ça, peut-être ?
Oui, même de manière plus générale, hein. Il y a des événements où ce qui attire, c'est parce qu'il y a tel prédicateur, tu vois.
Ouais. Oui, mais c'est pas mauvais.
Okay.
Moi, je trouve pas que ce soit mauvais. Moi, ça m'est déjà arrivé de kiffer un prédicateur au point de pouvoir aller me déplacer à Paris à l'époque où j'habitais en région parisienne pour l'entendre lorsqu'il faisait une conférence. Mais il n'y a rien de mauvais, au contraire. Parce que tu sais qu'il y a un message qui va avec. Enfin, moi, c'est pas ce qui me choquerait. Ça, en plus, ça dépend pas tellement de toi, ça dépend beaucoup de la personne. Alors, je sais que tu veux pas être une occasion de chute, mais bon, voilà, t'es pas non plus responsable de la chute des autres. Mais pour toi-même, en tout cas, la tentation de l'orgueil, elle va être réelle et concrète, et il faut que tu la fuis. Il faut que tu combattes tout ce qui pourrait mettre toi et ta tête à la place de celle de Dieu, quoi.
De toute façon, ça fait 15 ans qu'on fait ça et qu'on essaye justement de faire attention. On a fait très peu de concerts de dévotion. Tu sais, c'est intéressant, on fait beaucoup de coca-concerts, d'interventions dans des événements, des actions d'évangélisation. Et des concerts de dévotion, c'est très rare. Et pourtant, on nous en propose. Il y avait quelqu'un qui voulait nous booker. C'est aussi parce qu'on ne fait pas de concerts payants. Quelqu'un qui venait nous faire un concert à Paris, dans une grande salle, truc, nanana. Et moi, c'est un truc qui me parlait pas. Alors, il y en a d'autres dans le groupe, ils étaient archi chauds et tout, mais c'est vrai que moi, ça me parle pas trop. Déjà, le principe de concert payant, si on peut ne pas faire payer, c'est toujours mieux. Et d'avoir un truc où les gens viennent juste pour dévotion. Maintenant, même avec toutes les précautions qu'on peut prendre, les gens, ils viennent pour dévotion. Dans tous les cas, ça arrive. Et c'est là où c'est aussi à nous, dans notre manière de faire, dans ce qu'on propose aux gens, de leur montrer, même si vous êtes venus pour nous, on vous amène vers Jésus,
ouais,
tu vois. À la manière de Jean-Baptiste, tu vois,
ouais.
qui redirigeait ses disciples vers le Christ.
Et qui le faisait bien. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en gros, le jour où j'ai rencontré ma femme, elle m'avait vu une semaine avant, tu sais, quand on était
oui.
à Toulouse.
Oui.
Et donc, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Oh, il y a dévotion
ah. !»
À l'époque, elle était un peu idolâtre avec vous, quand même. Mais grâce à ça, elle s'est adressée à moi.
C'est grâce à nous.
Et puis après, ça fait le taf. Mais bref, tout ça pour dire que faut aussi s'en remettre à la souveraineté de Dieu. Dieu connaît nos cœurs et il sait que l'homme, il flanche facilement. On a bien sûr un devoir, mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il fait avec. Il fait vraiment avec, tu vois, avec justement nos tentations idolâtres, avec notre orgueil, avec tout ça. Dieu, il arrive quand même à faire quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure, on parlait de la starification des stars. Franchement, j'ai pas non plus envie de leur jeter la pierre tant que ce qu'ils proclament, c'est vraiment l'évangile. Maintenant, Paul, il dit aussi, il faut que je diminue et que lui croise, quoi.
C'est pas Jean-Baptiste qui dit ça ?
Ah oui, pardon. Jean-Baptiste dit ça, ouais.
En fait, pour revenir dans le milieu artistique, parfois sous couvert de l'art, c'est un peu une disquette pour faire des dingueries. Parce qu'en fait, l'art, ça excuse tout un peu. Et ils vont faire des clips ou des visuels, des choses où tu te poses la question, il met en avant qui ? Est-ce que c'est lui-même qui se met en avant, tu vois ? Après, aujourd'hui, il faut des clips. Il faut des clips pour que ce soit entendu, que ce soit vu, pour qu'il y ait un support visuel et tout. Mais ouais, c'est plein de questions que des fois je me pose, je me dis...
Mais en vrai, c'est des questions pertinentes et Dieu le voit. N'empêche que, moi je me rappelle d'une de mes collègues, qui est toujours pas chrétienne, mais qui a grave kiffé dévotion, à cause du style de musique, à cause du clip, etc.
Ouais.
Et donc, on sait pas comment Dieu va la travailler.
Ouais, en fait,
mais n'empêche que c'est un moyen comme un autre.
De toute façon, c'est pas des mauvaises choses, l'art
non,
c'est Dieu qui l'a créé,
il
veut qu'on soit aussi créateur, un peu comme... Comme lui, pas pareil, hein, pas de rien.
Pas à la même échelle.
Voilà. Mais il y a quelque chose de beau à faire, à être créatif dans la musique et tout. Donc moi, je kiffe, de toute façon, les visuels, la musique et tout. Mais je pense qu'il y a vraiment des risques et qu'il faut se poser les bonnes questions et qu'on ne peut pas juste se dire « Ah, mais c'est de la musique, c'est comme ça. Ah, mais c'est... » voilà.
Ouais, t'as
raison. Moi, je suis un artiste ou moi, je suis un influenceur. De toute façon, c'est comme ça. C'est les codes actuels. Il faut répondre à tel et tel truc. Donc voilà, il faut se mettre en avant et tout. Moi, je dis, attends, venez les gars, on réfléchit quand même. On a des principes bibliques, Dieu nous appelle à l'humilité, la sobriété, etc. Il y a un moment où il y a des choses qui ne sont pas forcément nécessaires et qui peuvent porter à confusion ou avoir, même si ce n'est pas dans nos cœurs, ça peut être un mauvais témoignage. Donc je pense que, ouais, faut faire attention.
T'as grave raison. Et en fait, ce que tu dis, c'est valable, je pense, même au-delà de l'art. Moi, je réfléchis différemment, mais comment gérer une église, quoi ? Comment, qu'est-ce que doit être le culte ? Est-ce qu'il faut privilégier la communion fraternelle, l'évangélisation ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on ne met pas en place ? Y a des choses de plus en plus modernes. Y a des choses aussi où on fait que de la louange et on lit peut-être pas la Bible. Enfin, voilà. Tout ça, c'est aussi des questions qu'on se pose dans plein de milieux. Et là où t'as raison, c'est qu'il faut être très vigilant. Ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Faut vraiment se poser cette question-là. C'est pas une bonne raison, tout le monde le fait. Mais
ou on a toujours fait comme ça.
Ah, alors c'est encore moins. c'est encore moins une bonne raison. Enfin voilà, faut vraiment utiliser la sagesse que Dieu nous donne pour tout ça.
En tout cas, ouais, il y a ce combat pour la gloire de Dieu seul, pour pas se donner la gloire à nous-mêmes, que ce soit dans nos cœurs, mais que ce soit dans notre témoignage, dans la manière dont les gens aussi vont recevoir ce qu'on fait. Est-ce que tu pourrais pointer du doigt certains points de doctrine qui pourraient justement minimiser la gloire de Dieu ?
Là, comme ça, j'en vois quelques-uns qui, je pense, sont vraiment problématiques. Le premier, il est un peu plus criant et il est plus facile à dénoncer, c'est l'évangile de la prospérité. Et je lis aussi à l'évangile de la proclamation. Parce que là, il y a une confusion entre beaucoup de choses. entre les actes, la foi, l'éthique. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout. Et finalement, dans ce tout, où est Dieu, c'est un peu plus complexe, quoi.
Mmh. Bah, c'est vrai que l'évangile de prospérité, en gros, c'est de dire viens à Dieu, tu n'auras plus de problèmes. Souvent, dans l'évangile de prospérité, il y a la promesse de la guérison systématique, la promesse aussi du mariage, la promesse d'avoir des enfants.
Et surtout, en fait, ce qui me chagrine, c'est qu'il n'y a rien dans la Bible. Enfin, à la limite, pour la prospérité matérielle, bon, on peut penser à Malachie 3, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Ah, et en fait, ils ont certains passages.
Oui, bah, il y a trois gens, tu vois. Trois gens où il dit...
Je désire que tu prospères à tous égards.
Ouais.
Non, après, sur la guérison, il y a des... Bon, ce sera un autre sujet.
Ouais, il faudra faire un
podcast dessus. Mais là où, pour faire le lien avec notre discussion sur la gloire de Dieu seul, bah, c'est un truc où, finalement, la gloire elle revient un peu à l'homme. On est centré sur l'homme. C'est
oui.
Une théologie où c'est mes besoins, mes préoccupations.
Exactement.
Je viens à Dieu, mais pour moi, en fait.
Ouais.
Pas pour lui, pas pour sa gloire, mais parce que...
C'est ce que tu disais aussi dans le chant. Pas pour mon bonheur, mais
oui.
Tout. Ouais, et ben, le bonheur, toi, tu as employé le terme de besoin, mais c'est aussi, on le lit, hein, le besoin au bonheur.
Mmh.
Alors que la Bible, elle est claire. Dieu connaît nos besoins.
Mmh.
Ça ne veut pas dire qu'il va, tu vois, mais il les connaît. Et on peut avoir confiance en lui.
Mmh.
Donc ouais, la prospérité, c'est la première réponse qui m'est venue comme ça. Et la deuxième, c'est l'idée qu'on puisse acquérir le salut en faisant le bien et avec un saupoudré tout ça d'un petit peu de Christ est mort pour moi, etc. Ça, j'ai du mal quand même. Le protestantisme s'est battu contre, peut-être trop d'ailleurs, hein, ça c'est un autre débat, mais contre le « il faut, on doit », et c'est une bonne chose, mais on peut constater que dans des églises, cette formulation « il faut, on doit », ça revient, quoi.
Ouais, ouais.
Ça revient et c'est parfois impressionnant.
Mais justement, au-delà des points de doctrine qui pourraient réduire la gloire qui revient qu'à Dieu, est-ce qu'il y a aussi des manières de vivre la foi qui sont centrées sur nous et pas sur Dieu ?
On a un petit peu évoqué le piétisme, poussé, quoi. Mais je ne jette pas tout dans le « il faut, on doit », parce que ça me paraît aussi biblique que les œuvres traduisent la foi.
Mm.
Mais voilà, il faut bien se rappeler l'ordre des choses. Christ a tout fait. À la croix, il nous transmet la foi par l'esprit. Et là, on est poussé à faire des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance.
C'est le résultat, c'est la conséquence, c'est pas la cause.
Exactement. Et donc, il y a vraiment un lien continu, mais un lien qui est presque aussi temporel, quoi.
Et même les œuvres, j'ai envie de dire, c'est Dieu, on l'a dit.
Et on l'a dit.
C'est lui qui produit le vouloir et
le faire. Exactement. Ouais. Et les œuvres sont pour la gloire de Dieu. Et on parlait tout à l'heure de Colossiens 3, où on est invité à faire toute chose... comme pour le Seigneur et non pour les hommes.
Mmh.
Ça, c'est aussi, on n'en a pas beaucoup parlé. L'expression « à Dieu seul soit la gloire », c'est aussi rechercher avant l'appréciation des hommes, la volonté de Dieu.
Mmh.
« À Dieu seul soit la gloire », c'est vraiment dépasser la peur de l'homme, c'est apprendre à la dépasser, quoi. En fait, s'affirmer en tant que chrétien, et peut-être moi le premier. Je sais que parfois, j'ai du mal, par exemple, quand je suis... dans ma fonction de prof, à être toujours très clair sur ce que je crois vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je crois vraiment, mais que je vais avoir tendance à cacher, par exemple.
Mmh.
Des désaccords que je vais avoir, mais que je vais taire. Et je trouve que je ne glorifie pas Dieu en faisant ça. Bon, il n'a pas besoin que je le glorifie pour être plein de gloire, mais quand même.
La foi, ce n'est pas juste quelque chose dans le cœur. Le truc un peu de la foi, c'est privé,
trucs. Bah...
Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu vois, il y a les deux. Y a
la foi
du cœur, mais il y a aussi...
Ah bah bien sûr.
Si tu reconnais publiquement, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé.
Et d'ailleurs, petite parenthèse de grammaire grecque, je rappelle que le « et », ce qu'on traduit par « et », peut se traduire aussi par « c'est-à-dire
».
Et donc, il y a une relation d'équivalence.
Et bah justement, j'avais un verset, Galates 1, verset 10. « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ?»
Ah bah oui, clairement.
« Ou celle de Dieu ?»
Et
est-ce
oui.
que je cherche à plaire aux hommes ?» Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais c'est intéressant, il pose la question, et je pense que c'est peut-être une question qu'on doit tous se poser.
Mais et le contexte, il est en train de leur dire, bah, vous êtes des anathèmes. C'est chaud ce qu'il dit.
Oui, oui, il dit des choses très dures.
Et il rentre dans l'art, en gros.
Ouais, et il dit, en gros, moi, je ne cherche pas votre approbation ou quoi. Ouais. Parfois, derrière ce principe, tu sais, il y a des gens qui disent, ah, il n'y a que Dieu qui peut juger, donc je fais ce que je veux. Ouais. Des fois, c'est un principe qui est tordu en mode, moi, je m'en fous de ce que les gens pensent, et donc ils s'en foutent de leur témoignage, de leur comportement envers les gens. Ce n'est pas du tout ça.
Oh non.
C'est plutôt le fait de dire, je suis tellement fidèle à Dieu que c'est plus important.
Je peux pas me taire.
Voilà, ouais. Je peux pas, je me corrompre mes principes, mes valeurs, voilà, ma manière de vivre. Donc c'est vraiment, c'est plus cette idée-là, je peux pas ne pas dire la vérité.
Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment du mal dans nos églises à évoquer. La question du divorce, la question de la sexualité avant le mariage, toutes ces questions-là, en fait, qui relèvent de l'éthique, de la pratique, de tout ça, c'est des questions qui sont très difficiles à évoquer en église. Mmh. C'est une réalité, l'homosexualité, enfin tout ça. Et pourtant, je pense qu'il faut le faire. Oui. Parce que ne pas le faire, c'est ne pas honorer Dieu.
Mmh. Yes, wow. Franchement, la discussion était passionnante. Par contre, là, il ne nous reste que 30 secondes.
Ah.
Donc, j'aimerais que tu t'adresses à quelqu'un qui nous écoute. Et on a parlé de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de vivre pour la gloire de Dieu seul? Et je te mets un minuteur.
Oh là, c'est vraiment minuté.
Oui, je veux que tu respectes les 30 secondes. Est-ce que tu es prêt?
Ouais, je suis prêt.
Allez, go.
Toi qui m'écoutes, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que t'as rien pour toi. T'as rien pour toi. Mais il y a un vrai soleil, un soleil qui brille. Et ce que tu peux faire, c'est refléter ce soleil. Et ça, tu peux le faire pleinement. Donc, je t'encourage à ne pas chercher à briller par toi-même parce que tu ne peux pas. Mais ce que tu peux faire, c'est briller, en fait, plutôt faire resplendir celui qui brille vraiment et qui peut tout faire.
Wow, merci beaucoup, Arkoum. C'était un plaisir. Et bah, peut-être à une prochaine.
Avec plaisir.
Yes.